des acteurs économiques, 2, des moyens nécessaires, matériels et financiers, et 3, à cause de la question de l'accès au public et aux débouchés. Néanmoins, il existe des interstices, il existe des niches, et donc il y a une possibilité, ou souterraine, de se manifester et de se développer. Je voudrais dire, donc, en guise de, disons, de conclusion, hein, parce que tel était l'objet de mon exposé, c'était d'introduire donc cette idée de deux modèles. Donc, ce que je voudrais faire, toute une série de remarques. Première remarque, pour analyser le potentiel productif du capitalisme cognitif, à partir de l'idée que la société est divisée. Que la société est divisée en quelque sorte entre trois éléments. Premier élément, les grands appareils de connaissance ou les grands dispositifs de connaissance et d'innovation que pilotent des gestionnaires. Alors, de grands appareils. Alors quand je dis des appareils, c'est pas forcément des appareils machiniques. Hein, ça peut être aussi des appareils institutionnels. Mais nous avons donc des appareils, des dispositifs, des institutions qui encadrent, qui structurent très fortement la recherche hein, dans tous les pays du monde. Et Dieu sait qu'en France en particulier, nous sommes bien dotés en termes de machines administratives qui s'occupent de la recherche et que cela va même s'accroître. Donc il y a des appareils. Deuxième catégorie d'éléments, il y a des acteurs, pareil, qui sont encadrés par ces appareils, mais qui essayent, au sein donc de ces structures, de résister, de faire un peu, d'imprimer une... Alors, ils essayent éventuellement de regagner, de reconquérir le contrôle des appareils, et donc il y a bien sûr des luttes, des conflits pour le contrôle des appareils de gestion de la connaissance, et nous assistons actuellement à ce genre de lutte, et ou alors également ils développent des contre-modèles, ils développent des contre-expertises, ils développent donc des activités qui sont plus ou moins en marge, plus ou moins souterraines au sein de ces appareils, avec des objectifs particuliers, d'ailleurs plus ou moins récupérables. Et puis enfin, il y a une troisième catégorie d'acteurs, ce sont les acteurs qui échappent à ces appareils, qui ne sont pas dans ces appareils, et qui, à l'extérieur de ces appareils, développent une contre-culture, se traduisant par des pratiques ou des objets éventuellement récupérables. Prenons l'exemple de Linux, récupérable et peut-être déjà totalement récupéré. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il me semble que la fonction innovatrice et productrice du capitalisme cognitif si, quelque part, on n'introduit pas l'idée de cette division. Cette distinction me semble nécessaire parce qu'elle permet d'introduire la politique dans le processus de production et dans le processus d'innovation. Elle permet de montrer que finalement, la question, c'est pas une question de savoir il y a un type de connaissance d'un côté, un autre type de connaissance de l'autre. Hein. C'est bien là que n'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est dans les logiques d'exploitation, d'utilisation d'essence et de production de nouveautés. Ce sont dans les logiques. Et ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, puisque le cadre cognitif, il est commun. Hein, si on part de l'idée que le cognitif, c'est un bien commun, c'est un bien collectif, donc il est accessible de la même sorte, a priori, bon, sous réserve d'inventaire, aux tenants de la science officielle et aux membres de la contre-culture. Hein, tous dans le même bain cognitif. Donc, ce qui les départage, ce sont des logiques, ce sont les espaces dans lesquels donc ils développent les orientations à leur travail sur la connaissance et à leur travail d'innovation. Et donc l'idée, c'est que on a donc deux logiques qui sont en confrontation avec une frontière qui bouge. Une frontière qui bouge selon les périodes, selon les périodes et selon aussi la capacité. Il y a des moments pour certains projets où la science officielle sera plus forte, bon, bien entendu, tous les projets qui sont des projets lourds sur le plan financier, sur le plan physique, matériel, le nucléaire, a priori, difficilement accessible à la contre-culture, il y a tout un ensemble, bien sûr, d'autres activités qui sont plus légères, qui sont moins exigeantes donc en moyens, et qui sont donc plus accessibles à la contre-culture. Là, nous avons donc des frontières qui bougent. Et ce qui est intéressant, donc, c'est d'introduire dans l'analyse de la production de connaissances et d'innovation du capitalisme contemporain, d'introduire d'emblée l'existence de cette tension, l'existence de ce débat entre deux cultures, deux approches, deux modèles de l'innovation qui se trouvent en quelque sorte en conflit. Cette dialectique entre ces deux logiques est le moteur, à mon avis, de la dynamique du capitalisme cognitif. Si on n'introduit pas cela, à mon avis, on laisse échapper ce qui constitue peut-être le cœur et la tension centrale de l'innovation telle que l'on peut l'analyser dans le capitalisme contemporain. Alors, on peut illustrer cela, et je vais prendre une illustration qui me permet de démontrer deux choses à la fois. Mais bon, j'en viens au fait, l'illustration pratique. L'informatique est née, vous le savez, donc les années 40, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les grands ordinateurs, Univac et compagnie. Première révolution en 1965-63, je ne sais plus, l'IBM 360 à la disposition donc d'agents privés. Jusque-là, les ordinateurs, c'était des trucs de recherche, militaires, etc. IBM donc crée un ordinateur destiné à des usages privés qui est vendu. C'est l'IBM 360, ça a été quelque chose de tout à fait épique. Et donc pendant une quinzaine d'années, 20 ans, on va connaître une seule informatique, la grosse informatique centralisée. L'informatique donc où certains, disons les anciens ici, s'en souviennent, donc les salles réfrigérées, les énormes machines, les cartes au départ, donc des trucs invraisemblables, des choses extrêmement lourdes, et qui donc collaient avec un modèle donc hiérarchique de la société, d'elle centralisée de la société, quand je dis la société c'est l'entreprise et aussi sociale, et qui correspond parfaitement bien d'ailleurs avec la mentalité, je dirais, fordiste de l'époque. On est en plein dans le fordisme. Bien. Avec les grands appareils d'État. Bon. Apparaît, fin des années 70, apparaît le micro-ordinateur. Apparaît le micro-ordinateur qui est une révolution culturelle. Culturelle, parce qu'avec le micro-ordinateur, on brise le modèle culturel de l'informatique. Le modèle culturel de l'informatique est un modèle donc lourd, centralisé, et on rend possible tout d'un coup donc une informatique décentralisée, une informatique où chacun va finir par avoir un ordinateur sur son bureau. Et ce phénomène est un phénomène qui est né de la contre-culture. Il n'est pas né des grands laboratoires de recherche, il est né, on sait, Apple, Garage, etc., comme Hewlett-Packard. Donc ce sont des individus totalement contraires à la science dominante, en quelque sorte, la science officielle, qui était la science des gros ordinateurs. IBM aurait pu très facilement, bien sûr, créer un micro-ordinateur, mais ce n'est pas IBM qui l'a créé, ce sont d'autres qui l'ont créé. Bon, et donc, si on fait l'histoire de l'informatique, c'est à ça que je veux en venir, on voit bien qu'on a ce balancement entre la science officielle, la science instituée, la science des grands appareils économiques, et même au départ des grands appareils militaires, le complexe militaro-industriel, avec IBM et les États-Unis, c'était pas rien. Donc on a ça, et puis on a un jour l'intrusion de la contre-culture et l'innovation donc technologique donc avec les puces qui permet donc d'imaginer de faire un micro-ordinateur. Bon. Et donc on voit cette frontière se déplacer. On voit cette frontière apparaître et se déplacer. Au départ, s'il n'y a que la science officielle, et puis tout d'un coup, il y a une intrusion, il y a quelque chose avec la contre-culture, avec les micro-ordinateurs, et avec une culture de micro-ordinateurs qui va donner lieu à des avancées orthogonale avec, avec certaines approches, je dirais, officielles de l'informatique. Donc voilà comment on peut illustrer, si vous voulez, la chose. Alors, j'utilise cet exemple pour un deuxième point qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai dit, mais qui est très important, je souligne dans le papier, hein, c'est la note 11 du papier, c'est, disons, l'hostilité que j'ai à l'égard du déterminisme technologique. L'une des idées, l'un des points de débat que nous avons eu souvent en matière de capitalisme cognitif, c'est que nous entendons dire que le capitalisme cognitif, finalement, émerge, se développe grâce à la technologie, grâce à la micro-informatique, grâce au NTIC, hein, nouvelle technologie de l'information et des communications, et que donc il y aurait un facteur exogène, qui serait donc un miracle technologique, hein, donc une éruption soudaine, hein, de la puce d'abord, puis des NTIC, qui ferait que nous aurions donc un beau jour des ordinateurs sur nos bureaux, et que tout cela donc permettrait d'émerger le travail informationnel, de faire émerger ou de donner de la puissance au travail cognitif, et donc les technologiques suffiraient à elles seules à expliquer l'apparition du capitalisme cognitif et du travail cognitif. Alors, je ne crois pas à cela, parce que je pense que la technologie se construit. La technologie se produit, elle se construit. Aucun objet technologique, disons, ne naît immédiatement paré de toutes ses vertus, de toutes ses capacités. Et technologique est le résultat d'une conception, hein, d'une conception ou d'une évolution au travers des premiers usages qui en sont faits. Hein, je rappelle comment Simondon définissait, il disait l'objet technique est défini par sa genèse. Hein, et donc tout objet technique, toute technologie se définit par sa genèse. C'est-à-dire que toute technologie se construit dans une interaction avec des besoins, avec des attentes, avec des usages. Et que c'est par un ajustement progressif que achevé, avec toutes ses vertus, se manifeste. Mais s'il se manifeste avec toutes ses vertus, c'est parce qu'à un certain moment, on l'a conçu, on l'a orienté, on a répondu à des demandes qui ont amené à concevoir l'objet tel qu'on le connaît actuellement. Donc si je prends l'exemple de l'informatique, j'ai pris l'exemple de l'informatique aussi pour illustrer cela, c'est le cas, si vous voulez. L'informatique n'est pas pour faire de la logistique faire un certain nombre d'usages, disons, que nous n'aurions pas imaginé dans les années 60. Hein, je ne sais pas, tous les systèmes de management extrêmement sophistiqués et compliqués, tous les traitements de données, hein, que l'on fait dans les entreprises à l'heure actuelle, ce sont eux qui ont été à l'origine des évolutions des programmes informatiques, qui ont suscité des besoins, qui ont suscité des demandes, qui ont suscité des opportunités, qui ont rejailli sur la création de nouveaux outils, l'amélioration des qualités, Donc tout cela, c'est un processus interactif en spirale, qui se développe en spirale, mais il n'y a pas à un instant donné une demande préalable, hein, qui fait que on a construit l'objet technique pour répondre totalement, uniquement et définitivement à une demande préalable. Tout cela se fait en dynamique. Bon. Donc je reviens à ce que je voulais dire. Le travail cognitif donc n'est pas un travail qui est parce qu'il y a eu des ordinateurs, hein, simplement, c'est un travail cognitif qui émerge parce qu'il y a une évolution historique. Cette évolution historique a permis et a été amplifié aussi par les ordinateurs. Les ordinateurs, disons, le facteur déterminant, unique, essentiel, et donc constituera. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur cette question de la puissance productrice du capitalisme cognitif, de la connaissance. J'espère avoir été clair, mais enfin, vos questions sans doute contribueront à l'être davantage.